journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. 29 morts selon un dernier bilan. Au lendemain de l'attentat d'Avaz, Téhéran privilégie la piste séparatiste arabe et accuse les États-Unis et les Européens de soutenir le terrorisme. Explication dans un instant d'Isabelle Labéry. Steve Bannon bat la campagne européenne en affinité avec l'Italie de Matteo Salvini. Le chantre de l'extrême droite américaine était hier soir à Rome. Correspondance de Marie Duhamel. Deux sujets développés au sommaire de la face cachée du globe. Le retour au service militaire obligatoire au Maroc et les élections présidentielles au Nigeria. Le plus ancien jardin partagé de Paris fête ses 20 ans ce week-end. Comme aime à le souligner Pierre Rabhi, jardiner est un acte politique. L'attentat d'Avaz risque d'accentuer les tensions dans la région et d'alimenter les échanges à la tribune comme dans les alcôves de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où se rend aujourd'hui le président iranien Hassan Rouhani. Hassan Rouhani qui n'est pas le seul, loin de là, à avoir pointé du doigt les alliés des États-Unis. L'Europe n'est pas pour autant épargnée par Téhéran. Les ambassadeurs danois et néerlandais ainsi que le chargé d'affaires britannique ont pu hier prendre la mesure des protestations officielles. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Isabelle, sur quelles informations se fonde Téhéran pour accuser l'Europe ?
Eh bien, les Iraniens reprochent au Danemark et aux Pays-Bas d'être trop complaisants vis-à-vis des mouvements séparatistes arabes, notamment parce qu'ils ont accepté sur leur sol plusieurs de leurs membres. Et si le représentant britannique a lui aussi été convoqué hier au ministère des Affaires étrangères, c'est parce que l'un des groupuscules qui a revendiqué l'attentat, le Front populaire et démocratique des Arabes d'Avaz, l'a fait sur une chaîne de télévision transmise par satellite, mais qui a son siège à Londres. Et pour Téhéran, il est inacceptable, je cite, que le porte-parole d'un groupe séparatiste soit ainsi autorisé à revendiquer un acte terroriste. Vous savez que l'État islamique s'est lui aussi attribué la responsabilité de cet attentat, mais les autorités iraniennes ne prennent pas cette revendication très au sérieux et ceux qui sont dans leur viseur, ce sont clairement ces groupes soutenus par les Saoudiens. La République islamique considère qu'ils se conduisent exactement comme Daesh et elle reproche à l'Europe de manquer d'empathie lorsque le pays est touché par des attentats. Elle ne comprend pas que Bruxelles ne mette pas ces groupes sur sa liste noire au prétexte qu'ils ne commettent pas de crimes sur le sol européen.
Isabelle, au-delà de l'Europe, les États-Unis sont eux aussi la cible de la colère de Téhéran. Demain, on l'a dit, Hassan Rouhani sera présent à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Qu'attendre de cette Assemblée générale ?
A priori, pas beaucoup de progrès, plutôt des provocations de part et d'autre. D'ailleurs, on l'a un petit peu oublié hier, mais avant l'attentat, Hassan Rouhani a défié les Américains, expliquant que Donald Trump échouerait dans sa confrontation avec l'Iran et que son pays continuerait à développer ses capacités militaires. Or, vous savez que c'est l'une des raisons qui ont poussé Donald Trump à sortir les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Washington voudrait un nouveau traité qui couvrirait à la fois le nucléaire et le balistique, mais pour Téhéran, c'est impossible. Le président iranien a même refusé de rencontrer son homologue américain en marge de l'ONU.
Merci à vous, merci de vos explications. Isabelle Labéry, une révolte populiste de droite à travers le continent européen à la faveur des élections de mai prochain. Rien de moins, c'est l'ambition affichée par l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, chantre de l'extrême droite américaine, qui a fait de l'Italie le point d'ancrage de sa croisade. Il était l'invité d'honneur hier de la kermesse annuelle du parti souverainiste Fratelli d'Italia. Marie Duhamel nous appelle de Rome.
L'Europe des églises contre l'Europe des banques, c'est le logo affiché sur le t-shirt offert hier soir à Steve Bannon par Giorgia Meloni, présidente de Fratelli d'Italia. Tout sourire, selfie à l'appui à côté de son nouvel allié. Le vote de ce dimanche semble faire peu de doute après l'accueil enthousiaste réservé à l'ancien conseiller du président Trump. Avant même son discours hier soir lors de leur assemblée générale, les sympathisants du petit parti post-fasciste, aujourd'hui en perte de vitesse, étaient ravis de pouvoir montrer leur connexion à l'international. Et les applaudissements n'ont cessé lorsque Steve Bannon leur a promis que s'ils acceptaient son aide, ils obtiendraient un succès aux prochaines élections européennes pour imposer une élite de vrais patriotes aux affaires, celle, dit-il, de Giorgia Meloni ou de Matteo Salvini, qui détruiront le monde imposé par Bruxelles ou Davos, les responsables de la crise de 2008. L'Américain sait, il a fait Harvard et prévient d'ailleurs qu'une autre crise économique suivra. Elle fera paraître celle de 2008 comme un pique-nique dominical. Devant un public tout acquis à sa cause, il lance : vous savez combien de PDG, de banquiers sont allés en prison après 2008 ? Aucun. Aujourd'hui, Steve Bannon ne comprend pas pourquoi on ne peut parler de démographie, du fait que des jeunes veulent fonder une famille, de trouver un emploi sans passer pour un raciste ou un xénophobe. Vous n'avez pas créé la crise et pourtant c'est vous que le Financial Times, la CNN ou la BBC observent pour dénoncer vos crimes de haine. Steve Bannon s'en est pris en somme aux médias et à l'establishment pour encourager des Italiens éprouvés par la crise.
Marie Duhamel à Rome. Hong Kong a une cinquantaine de minutes de Canton, un bon gros quart d'heure de Shenzhen grâce à une nouvelle liaison ferroviaire. Rien de surprenant sur le plan technologique, c'est pour autant la première fois depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine, c'était en 1997, que les lois chinoises s'appliquent sur un bout de territoire semi-autonome, un dangereux précédent pour les démocrates hongkongais. Florence de Changy a assisté aux premières rotations à très grande vitesse.
Une cohue tranquille encombre les vastes halls de cette nouvelle gare qui a ouvert à 5h du matin ce dimanche pour permettre aux nombreux curieux de venir découvrir ce gigantesque bâtiment ultramoderne. Tout était prévu pour les séances de photos devant les arches en ballon de baudruche. À l'arrivée, le bureau du tourisme distribuait des cadeaux de bienvenue à Hong Kong. Michael Tang, le teint buriné et lourdement chargé, est arrivé parmi les premiers voyageurs dimanche matin en provenance de Chine.
Cela m'a pris environ 2 heures. Je suis content, d'habitude c'est plus de 3h30. C'est vrai que ça m'a coûté plus cher, mais le temps, c'est de l'argent.
Sandy Pong est une Hongkongaise qui travaille à Canton. Elle a fait le voyage avec son fils de 11 ans.
Je viens d'arriver ce matin de Guangzhou. Il ne m'a pas fallu une heure. Normalement, si je prends le bus, il me faut au moins 3 heures.
La douane chinoise s'est installée dans la gare de Kowloon West, créant de fait une extraterritorialité chinoise, et c'est l'aspect le plus controversé du projet. Mais la plupart des voyageurs interrogés ce matin soulignaient la rapidité et la facilité de ce voyage. Wang Hongming, qui a payé 8 euros son billet pour venir de Shenzhen en 19 minutes, nous affirme avoir passé la douane en 2 minutes au guichet automatique.
Il y a très facile, très rapide. 2 minutes, on utilise son doigt, un seul.
Il indique que sa principale motivation pour venir dans l'ancienne colonie britannique est, comme pour des centaines de milliers de compatriotes, d'y faire un week-end de shopping.
En France, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb réagit aux propos tenus hier à la télévision par l'écrivain Yann Moix qui affirmait, je cite, que les policiers chient dans leur froc, fin de citation. Les syndicats de policiers réclament des poursuites, grossiers sur la forme, indécents sur le fond. Monsieur Moix a à nouveau tenu des propos intolérables à l'encontre de nos policiers. Je les condamne sans réserve et réaffirme mon soutien à nos forces de l'ordre, a tweeté le ministre de l'Intérieur. Cultiver un espace vert, faire pousser ses légumes, c'est possible à Paris. On connaissait autrefois les jardins ouvriers, on les appelle aujourd'hui les jardins partagés. Ils sont gérés par des riverains, regroupés en associations. Le plus ancien d'entre eux fête ses 20 ans ce week-end. Les jardins du ruisseau Porte de Clignancourt sur la petite ceinture. Ceinture embellie. Pierre Rabhi avait fait le déplacement. Jardiner est un acte politique. Et c'est un reportage d'Annabelle Grelier.
Sur les anciennes voies ferrées de la petite ceinture poussent des fleurs, un verger, des ruches y sont installées. Pourtant, il y a 20 ans, cet endroit désaffecté était beaucoup moins bucolique, comme nous le raconte le président et fondateur des Jardins du Ruisseau, Denis Loubaton.
Avant, ici, c'était vraiment un délaissé urbain. Donc les gens avaient pris coutume de jeter tous leurs encombrants, leur frigidaire, leur matelas. Cet endroit était totalement inaccessible, il était mort. Au début, notre ambition, elle était très très modeste, c'était de nettoyer, de fleurir.
Aujourd'hui, on y élève aussi des poules, on y fait de l'aquaponie et les écoles du quartier y suivent des ateliers pédagogiques. La SNCF est toujours propriétaire du terrain, mais la mairie de Paris, gestionnaire des lieux, a lancé un grand appel à projets sur cette petite ceinture. Des projets qui devront être autonomes financièrement et ouverts à tous. Un pari presque impossible pour Christophe Nick, qui œuvre dans ses jardins depuis ses débuts.
Ça ne peut pas être rentable un truc comme ça, faut arrêter le pipeau. C'est totalement utile pour Paris parce que ça fait partie des 100 hectares de végétalisation qui vont permettre de capter du carbone, etc. Mais c'est incompatible avec un tourisme de masse.
Et si jardiner était devenu un véritable acte politique? C'est du moins ce que pense Pierre Rabhi des Colibris, venu encourager les riverains.
C'est une façon de s'autonomiser au point de vue alimentaire, d'essayer l'autonomie alimentaire. Et c'est aussi quelque chose qui crée la convivialité, qui recentre les gens. Et je pense que c'est nécessaire. Sinon, ça serait bétonné et il n'y aurait plus d'espace vert.
Sur la commune voisine de Saint-Ouen, l'association La Bande Aguino, elle se bat pour défendre les 400 mètres carrés de jardin qu'elle cultive depuis 5 ans. Le maire les menace d'expulsion pour faire place à un projet immobilier.
C'est une lutte, on est menacés, on a un avis d'expulsion. On nous demande des dommages et intérêts alors qu'on fait pousser des framboises et des laitues.
Comment sauvegarder et encourager les jardins partagés? Une université d'automne est prévue le 29 septembre au jardin de Guino à Saint-Ouen.
Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture et c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. Jim Mattis a fait lundi un voyage éclair en Macédoine. Le secrétaire américain à la Défense est allé soutenir le oui au référendum de dimanche prochain sur le changement de nom de ce pays en Macédoine du Nord. Washington soupçonne la Russie, très hostile à l'élargissement de l'OTAN en Europe de l'Est et dans les Balkans, de mener une campagne d'influence et de désinformation via les réseaux sociaux pour éloigner les électeurs macédoniens des urnes. Deuxième semaine de grève dans les écoles, les universités et les hôpitaux du Costa Rica. Des barrages routiers entravent également la distribution du carburant et des marchandises. En cause, un projet de réforme fiscale dont une hausse de la TVA à 13% qui ne passe pas. Ce petit pays d'Amérique centrale vit au ralenti et la contestation commence sérieusement à affecter le tourisme, secteur vital pour le Costa Rica. Le premier ministre pakistanais Imran Khan promet d'accorder la naturalisation à des milliers d'Afghans et Bangladais présents dans le pays depuis plus de 40 ans. Un texte en ce sens sera présenté au Parlement. Près d'un million et demi d'Afghans et 250 000 Bangladais vivent au Pakistan. Vers un retour au service militaire obligatoire au Maroc. Depuis l'annonce surprise fin du mois d'août par le Palais Royal, les opinions exprimées via les réseaux sociaux sont divisées. Officiellement, la mesure est présentée comme un moyen d'améliorer l'intégration dans la vie professionnelle et sociale des jeunes. Omar Brooksy, universitaire marocain et journaliste indépendant, n'est pas convaincu par les motivations de ce retour au service militaire.
C'est un projet d'abord qui est très très coûteux parce que pour un pays qui vit des problèmes financiers comme le Maroc, prendre en charge chaque année des milliers de jeunes entre 19 et 25 ans pendant 12 mois, je pense que cela coûte énormément au budget de l'État pour pas grand-chose. Finalement, est-ce que c'est pour faciliter la réintégration ou l'intégration des jeunes au domaine professionnel? Et alors, à quoi serviraient alors les universités? À quoi serviraient alors les centres de formation professionnelle? Donc moi, je pense que c'est un projet qui manque de pertinence et qui manque de visibilité. Il est dirigé essentiellement contre la jeunesse contestataire qui a joué un rôle important, il faut le dire, à partir de février 2011. D'ailleurs, on l'appelle souvent le mouvement des jeunes du 20 février. Par la suite, ces derniers mois, la jeunesse aussi a joué un rôle très très importante dans la contestation qui a émergé dans le RIF à Gerada. Ce sont des mouvements de contestation qui ont été mis en avant essentiellement par les jeunes. Les réseaux sociaux qui sont des moyens d'expression conduits essentiellement par des jeunes. Donc la jeunesse marocaine joue un rôle très très important. Donc ce n'est pas tout. Il y a une volonté aussi d'encadrer les jeunes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres arguments.
Mais Omar Brooksy, ce service militaire obligatoire a déjà existé au Maroc.
Précisément en 66. Le roi Hassan II avait imposé ce service militaire après des événements connus à Casablanca, des événements sanglants de jeunes étudiants. Et l'objectif essentiel à l'époque, c'était d'encadrer les jeunes qui constituaient la principale opposition au régime d'Hassan II. Donc c'était pour des raisons éminemment politiques.
Au Nigeria, où la campagne pour l'élection présidentielle a démarré, les candidats sont priés de justifier leurs dépenses publiques. Ce pays pétrolier d'Afrique fait partie des mauvais élèves en matière de lutte contre la corruption. Il est 148e sur 180 selon le classement de Transparency International. La corruption se remarque à tous les échelons, elle fait partie du quotidien. Voilà pourquoi la militante anticorruption et écrivaine nigériane Oni O a voulu l'aborder de manière pédagogique. Elle a écrit « L'argent des mécas », livre destiné à sensibiliser les écoliers. Mélanie Gonzalez, notre correspondante à Abuja, l'a rencontrée.
L'histoire est banale. Emeka, le personnage principal, est quelqu'un de bien qui travaille pour un gouverneur. Loin du cliché de ceux que l'on imagine corrompus, croulant sous les richesses, il participe néanmoins, malgré lui, à la grande chaîne de la corruption.
Bien souvent, les gens corrompus ne se perçoivent pas comme tels. La motivation derrière ce livre, c'est avant tout ce sentiment que la corruption est devenue quelque chose d'énorme, de culturellement acceptable. Et ce n'est pas facile de faire changer le comportement des anciens. Le meilleur moyen de rendre la corruption moins tolérable, je pense que c'est de commencer par éduquer les jeunes enfants sur ce que c'est et quel impact ça a sur la société.
Depuis son lancement à la rentrée des classes, l'ouvrage a été imprimé à quelques centaines d'exemplaires et distribué dans les écoles de la capitale nigériane. L'auteur est à la recherche de financement pour étendre sa diffusion aux autres États fédéraux et organiser des ateliers de sensibilisation dans les écoles. Éradiquer la corruption était une des promesses du président en exercice Muhammadu Buhari. Candidat pour un second mandat, son bilan est lourdement critiqué à l'approche des élections. De toutes parts dans le pays, des groupes de la société civile déploient leurs efforts pour lutter contre ce fléau.
Le Brésil est le plus gros marché de la voiture blindée au monde, un secteur qui pèse 245 millions de dollars par an. L'insécurité croissante, la peur des balles perdues ou des attaques à main armée sont les premières raisons données par les automobilistes pour justifier leur choix. En 2017, le Brésil a battu un sinistre record avec 63 880 homicides, selon l'ONG Forum de sécurité publique. À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabila Abel, merci. La météo, de la pluie au nord, de la pluie accompagnée de très fortes rafales de vent, des rafales qui se propageront en soirée sur le Grand Est. Cette édition a été préparée avec Martin Descloseaux, à la technique Bruno Gagnère-Fontanille.